Le journal décidé à 6h40 sur France Culture. Jacques Meunier, bonjour.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Jacques, vous revenez ce matin sur la baisse de popularité du président Emmanuel Macron. Baisse telle qu'elle est mesurée par différents sondages en cette rentrée.
Oui, et Bruno Cotrès se demande sur le site d'information et d'analyse AOC ce que mesure au juste la popularité. Si la méthodologie des enquêtes d'opinion ne varie guère d'un institut de sondage à l'autre, ceux-ci n'utilisent pas les mêmes indicateurs de cette popularité. L'Institut Elab enregistre la confiance dans Emmanuel Macron pour affronter, je cite, efficacement les principaux problèmes qui se posent au pays, alors que d'autres utilisent des indicateurs plus indéterminés, plus vagues, comme l'IFOP, la satisfaction générale, BVA, une opinion d'ensemble, et YouGov, le jugement porté sur l'action du président de la République, sans le nommer. Le politologue souligne la difficulté d'interpréter ces résultats de manière globale en les additionnant bout à bout pour produire un pourcentage de popularité, d'où l'importance d'examiner les réponses aux questions ouvertes qui permettent aux personnes sondées de préciser leur opinion au-delà des questionnaires binaires ou en quatre points comme tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout satisfait. Par exemple, dans l'enquête sur le bilan d'image d'Emmanuel Macron un an après son élection, BVA demandait si l'on soutenait ou s'opposait à l'action du président, mais proposait également une modalité de réponse intermédiaire. Je cite, vous attendez de voir quels sont les résultats de l'action menée par Emmanuel Macron et le gouvernement avant de vous prononcer. 41% des personnes interrogées choisissaient cette option, manifestant ainsi un élément fondamental de la structure de la popularité d'Emmanuel Macron, la proportion de Français toujours incertain quant à leur jugement sur lui et qui attendent de voir les résultats. Dans les sondages de cette rentrée, Bruno Cotrès relève que si les opinions positives créditent sa volonté d'aller au bout de ses réformes et sa stature présidentielle, les opinions négatives sont plus diversifiées et touchent aux politiques mises en place, président des riches, mais aussi à plusieurs facettes de l'image présidentielle, arrogance, hors-sol, monarque, entre autres. Celle-ci lui colle d'ailleurs à la peau depuis la campagne présidentielle. Dans la dernière livraison de la revue Langage et Société, consacrée à la réparation d'image dans le discours de campagne, Keren Sadoun-Kerber analyse la prestation d'Emmanuel Macron dans l'émission politique sur France 2. À la question sur son patrimoine, le candidat répond d'abord par l'esquive en renvoyant à ceux de ses adversaires qui sont touchés par des affaires, Fillon et Le Pen, sans les nommer. Puis il s'emploie à déconstruire l'image du banquier d'affaires qu'on projette sur lui et qui présuppose l'appât du gain en affirmant qu'il n'est pas quelqu'un qui aime l'argent, sinon il n'aurait pas quitté le secteur privé. Mais rien sur les soupçons de favoritisme à l'égard des plus riches que ne manquait pas d'alimenter son programme, car en l'occurrence il s'agissait de sauver la face. L'analyse en termes de pragmatique du langage révèle aussi une grande maîtrise des différents registres d'interaction selon qu'il s'adresse à un journaliste, un adversaire politique ou à l'invité mystère, François Ruffin, face auquel il campe une attitude paternaliste conforme à la vocation présidentielle, en affectant de prendre ses divers gimmicks, agenda, carte d'Amiens, slogan sur le t-shirt, avec le sourire, comme un père qui sourit aux blagues d'un enfant. A l'inverse, l'analyse des discours de restauration de son image par François Fillon, analyse menée dans la revue par Magali Garesi et Damon Mayaffre, révèle un télescopage dévastateur entre différentes stratégies de communication comme le déni et la mortification, car il est difficile de nier la faute en même temps que de s'excuser de l'avoir commise. Or, c'est ce que fait le candidat Fillon, notamment lors de son discours au Trocadéro. En minimisant la faute, en la désignant comme une erreur, il condamnait le caractère performatif de l'excuse à l'insignifiance. Cela dit, l'image des politiques, c'est aussi tout simplement le portrait. Dans un ouvrage publié aux éditions De Bock sous le titre « Sémiotique du portrait », Anne Beillard-Gélin décrypte la signification sous-jacente à la représentation du visage depuis les origines jusqu'au selfie et la dialectique subtile qu'elle instaure entre le « je », le « tu » auquel elle s'adresse et le « nous » qu'elle esquisse virtuellement. C'est particulièrement vrai du portrait des politiques où il s'agit de construire une forme d'iconisation du caractère, notamment sur l'affiche électorale. Grémas associait l'iconisation à une procédure de persuasion véridictoire. Et dans le chapitre « Photogénie électorale de ces mythologies », Roland Barthes distinguait la pose de face qui accentue le réalisme du candidat et la pose de trois quarts où le regard se perd noblement dans l'avenir, domine et ensemence un ailleurs pudiquement indéfini, quelque part entre l'annonce et l'anticipation.